Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Et les vraies voix sont en mode Winston Churchill ce soir, puisque c'est aujourd'hui la journée hommage au premier briniste britannique, ironie de l'histoire, le jour de la disparition du duc d'Édimbourg qui a connu Winston Churchill comme premier ministre. Et certaines citations de Winston Churchill collent parfaitement aux vraies voix. Un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé, disait Churchill. Et comme il est peu conciliant dans le débat, cette phrase va très bien au président et non pas au Premier ministre Philippe Bilger. Bonsoir Philippe Bilger.
Bonsoir mon cher Philippe.
La citation vous va ?
Elle me va très bien.
Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Comme c'est une étoile, cette citation de Churchill était faite pour Céline Pina. Ben bonsoir
merci.
Céline.
Merci, c'est un vrai plaisir de vous retrouver.
Ça vous va ?
Oui.
La grande leçon de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous qui ont raison. C'est Churchill qui disait ça et comme il est un peu fou, Tom Conan a souvent raison. Bonsoir.
Bonsoir et je me reconnais tout à fait dans cette image et dans ce symbole.
Et je vous le disais il y a quelques instants, le duc d'Édimbourg nous a quittés aujourd'hui à 99 ans et on va écouter son humour britannique quasi churchillien dans un français absolument parfait.
On a entendu des Anglais désigner les Français sous le nom de grenouilles. Mais je abstiendrai de répéter les termes employés par les Français pour faire allusion aux Anglais. La tâche de cette association serait beaucoup plus facile si elle ne devait pas commencer par éliminer l'image d'après laquelle les Anglais passent leur temps à boire du thé dans les maisons sans chauffage, entourées d'un brouillard permanent.
Allez, votre réaction, les vraies voix, Philippe Bilger à la disparition du duc d'Édimbourg à deux mois de fêter ses 100 ans. Jour pour jour.
Ça tombe très bien, cher Philippe, parce que, évidemment, je m'intéressais beaucoup à cette personnalité hors de pair qui est morte à 99 ans et que j'avais découverte dans la magnifique série qu'était The Crown, et j'ai été un petit peu choqué tout à l'heure lors du bulletin d'information par le fait que, alors qu'il vient de mourir à un âge conséquent, qu'il n'a pas démérité, on éprouve le besoin immédiatement dans le portrait de parler de ses propos racistes et anti-misogynes. Je trouve que ça aurait pu attendre un peu.
Céline Pina, rapidement, on en parlera avec Jacques Pessis à 18h45 à peu près.
Mais très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bilger, le temps du deuil est un temps de respect où on suspend un peu son jugement sur les gens et ce serait très sain de retrouver un petit peu ces manières de respecter l'autre et de laisser un petit peu le temps du chagrin faire son œuvre.
Des méthodes de gentleman, comme disent les Anglais. Bon, Tom Conan.
Moi, je ne me prononcerai pas sur ça, mais en revanche, j'ai aussi regardé comme Philippe Bilger la série The Crown, effectivement, et je trouve que l'image de ce prince est vraiment le fait qu'il a traversé aussi le siècle avec la reine est assez incroyable parce que c'est vraiment une
73 ans de mariage cette année.
C'est absolument incroyable et moi, quelque part je trouve ça beau que ça se termine de cette manière-là parce que finalement la reine continue de régner après le décès de son mari et c'est quand même un beau souvenir je pense pour le siècle.
Et elle aura 95 ans le 21 avril. Oui, Céline Pina.
Donc je crois que ce que vient de dire Tom est très très juste, c'est-à-dire que lui comme elle ont traversé le siècle, ils ont été de tous les rendez-vous extrêmement importants. La guerre, la reconstruction, la guerre froide. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de changer de monde. Et en fait, de façon presque symbolique, les gens du monde d'avant s'en vont. Et je trouve que c'est pour ça, peut-être, que même nous, Français, on a du chagrin.
Rendez-vous compte qu'elle était sur le trône, la reine Elisabeth est sur le trône depuis 1952. C'est-à-dire une date pratiquement 70 ans, ça fera 70 ans l'an prochain, ce qui est quand même extraordinaire.
Un règne aussi long que la paix que l'Europe a connue.
C'est ça, c'est ça. Le menu des vraies voix à 17h30, croyez-vous au retour des libertés à la fin de la pandémie ? Vaste programme. Second débat à 17h40, braquage au Georges V en plein couvre-feu, c'était hier soir avec arme à feu et hache.
Et c'était pas moi, hein.
Non, c'était pas.
Comme je suis accusé de fou.
Non, mais vous êtes pas Pierrot le fou, vous êtes Tom le fou, pour faire une allusion à Jean-Paul Belmondo, on en parlera tout à l'heure. Et enfin, à 18h30, notre grand débat, la France est face à un problème d'invasion et de colonisation, c'est Philippe de Villiers qui a dit ça ce matin, êtes-vous d'accord avec lui? Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Prêt pour un tour de table de l'actualité, les amis?
Ouais.
Eh bien, c'est parti.
Ah ben, bien sûr.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis Darmanin.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table
de l'actualité.
Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe.
Et Tom Connell voulait nous parler d'un impôt pour les riches. Louis de Funès et les Inconnus à la suite.
Ouais, effectivement, il y a ce sketch effectivement des Inconnus, absolument. Ce clip là-dessus sur l'ensemble des impôts qui existent en France, effectivement, du début de la vie jusqu'au décès, c'est assez incroyable. Mais effectivement, alors il y a le FMI il y a quelques jours qui a fait une recommandation aux pays développés, même aux pays en général, qui ont traversé la pandémie, s'agissant du redressement de leurs finances publiques. Parce que comme chacun sait, il y a des plans de relance très importants qui ont été mis en œuvre, qui le sont notamment, par exemple, si on prend les États-Unis, il y a un plan de plus de 2000 milliards pour les infrastructures, etc. Et il y a un coût, évidemment, en France, par exemple, avec les fonds de solidarité, par exemple, les prêts garantis par l'État et moult autres dispositifs qui vont coûter donc très cher pour les deniers publics. Et donc, dans ce cadre-là, donc, le FMI encourage effectivement les pays concernés à mettre en place des nouvelles taxations. Alors, c'est toujours un peu vaseux, parce qu'évidemment, moi, ce qui me gêne toujours un peu dans ces préconisations-là, c'est que finalement, ça réduit toujours le rôle de l'État à une fonction duale. Moi, quand je faisais Sciences Po, c'est ce qu'on disait, c'est soit les règles soit la fiscalité. Donc c'est quand même assez limité, hein. C'est vraiment deux boutons comme ça, donc il faut peut-être un peu complexifier les choses, mais en tout cas c'est la recommandation qui est faite en effet, d'un côté augmenter les taxes sur les entreprises qui ont fait plus de bénéfices, ce qui est une chose normale effectivement pendant la pandémie, donc qui ont surperformé entre guillemets alors que tout le monde sous-performait par ailleurs, et aussi pour les particuliers. Le problème c'est qu'évidemment c'est sur la question du spectre. Après, si vous envisagez ça, par exemple François Hollande disait il y a quelques années qu'à 4000 euros par mois on était riche, donc dans ce cas-là effectivement, si on prend riche dans ce sens-là, ça pourrait toucher potentiellement beaucoup de personnes.
Philippe Bilger, faire payer les riches, ça vous dit?
Mais on est toujours prêt à
c'est
faire payer les riches.
C'était un slogan en 80, faire payer les riches, chiche avec marché.
Ouais. C'est drôle comme dans cette optique, on ne se considère jamais comme pauvre. Mais au fond, pourquoi pas faire payer les riches à condition qu'ils aient le sentiment d'une équité. Et j'espère que notre classe riche en France a parfois des élans de générosité et qu'au fond, on ne sera pas toujours obligé de la contraindre à bénéficier, à donner ce dont elle a eu la chance ou bien de toucher par héritage, ou bien grâce à son travail.
Céline Pina.
Moi, la question que je voulais poser à Tom, c'est est-ce que dans... il me semblait que dans faire payer les riches, dans ce cas-là, le FMI avait aussi en tête l'idée qu'aujourd'hui, comme il y a des pays qui n'ont pas de fiscalité sur les entreprises, il y a des entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices, par exemple en France ou en Europe, mais qui vont s'installer dans des paradis fiscaux.
Même dans l'Europe, en Irlande ou au Luxembourg, soit dit en passant, ou aux Pays-Bas.
Voilà, histoire de ne pas donner leur quote-part alors qu'elles pèsent sur les infrastructures, puisque les impôts servent à construire nos infrastructures. Et à ce titre-là, ce rappel à l'ordre était judicieux. J'ai l'impression que c'était plus ça qui était visé que l'idée de cibler les individus.
Ouais. En fait, c'est effectivement les deux qui sont ciblés. Hein. Donc, du coup, comme c'est des préconisations, les recommandations du FMI, elles ne sont pas évidemment obligatoires. Hein. Il y a pas,
c'est un catalogue.
C'est un catalogue. C'est plutôt une orientation de politique publique et puis après qui est implémentée par l'Union européenne, s'agissant de la France, hein, beaucoup, puisque les questions de finances publiques aujourd'hui sont beaucoup régies par le droit européen. Puis après en France quand même en dernier ressort. Mais donc c'est quand même un spectre assez large. Et puis je veux dire qu'il y a toujours un peu un problème, c'est que moi je suis tout à fait d'accord pour lutter contre les paradis fiscaux, les niches fiscales, etc. Ça me semble inconcevable que des boîtes comme Amazon ne payent pas l'impôt juste
et
beaucoup d'autres boîtes des GAFAM, etc. Mais en fait tout le problème c'est que derrière il y a souvent une simplification qui est faite, puisque comme l'assiette fiscale vous savez c'est l'ensemble des contribuables, si je taxe 1000 personnes à 75% ou 90%, même si c'est beaucoup, Bah, en fait, 1000 personnes, c'est rien, même si c'est 1000 entreprises, bah, il vaut mieux taxer 30 millions de personnes avec un petit pourcentage. Voilà. Et donc, très vite, on se retrouve avec une situation de ce type où, en fait, c'est les classes moyennes, disons, supérieures et plus, qui contribuent le plus.
Philippe Bilger,
c'est la frappe de Coluche, vous ne connaissez pas, il vaut mieux taxer les profs, il y en a beaucoup
plus. Bah, évidemment, plus. C'est ça, c'est l'assiette fiscale.
Et c'est vrai.
Philippe Bilger, justement, parce que ce que disait Tom Conan, c'est extrêmement intéressant. Mais tant qu'il y aura des paradis fiscaux, le FMI, il est bien gentil, mais c'est comme c'est faire des phrases dans le vide, non ?
Oui, mais alors, je n'ai pas le savoir et la science de Tom dans ce domaine de la richesse, mais...
Vous n'avez jamais rien planqué dans un paradis fiscal ?
Non, non, mais à la limite, je dirais cyniquement que j'aurais bien aimé, mais je n'ai jamais pu.
On est tous là.
Mais j'ai vu avec plaisir, mais Tom, sous votre contrôle, ce que Biden a approuvé récemment, qui me paraît pas mal, contre les paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'on aura un impôt minimal, c'est cela, ouais, sur les sociétés.
Oui,
mais
tout
donc,
à fait.
Philippe, voilà.
Et
voilà.
Ce qui est intéressant, dans ce que fait Biden, parce que là, pour le coup, c'est plus concret, c'est pas une recommandation, oui, c'est vraiment un gouvernement fédéral en l'occurrence qui agit. Ce qui est intéressant, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye un petit peu de retrouver un peu la vibe, vous m'excuserez cet anglicisme, donc l'esprit de Roosevelt en fait. Hein.
Avec le New Deal.
Avec le New Deal, effectivement, voilà, où il y avait eu des taxes sur les revenus, des taxes exceptionnelles, très importantes, pendant une durée assez limitée d'ailleurs, mais qui
c'était
aussi...
suite à la Grande Dépression exactement, en 1929 à 1933.
Voilà, de 29,
c'est ça.
Après la Grande Dépression des années 30, et donc effectivement, on est sans doute dans un effort aussi de cohésion nationale. On voit que c'est une décision qui est beaucoup plus politique que économique en réalité, et ça, effectivement, j'y suis très favorable.
Vous êtes bien dans les vraies voies. Il est 17h15 pour faire du Tom Conan. La vibe est très bonne, et personne n'avait jamais douté que Philippe Bilger étant exemplaire, il n'était jamais allé dans les paradis fiscaux. Dans quelques instants, notre premier débat. Croyez-vous, et moi je rêve avec vous, mes vraies voies, d'aller manger, allez, tiens, un cassoulet toulousain dans un restaurant. Croyez-vous au retour total de nos libertés à la fin de la pandémie ? Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Tom Conan. Second tour de table avec Céline Pina qui veut nous parler du maire d'Albertville.
Oui, donc le maire d'Albertville, Frédéric Burnier-Framboré, vient de faire paraître une tribune parce que le tribunal administratif l'oblige à autoriser la construction d'une école islamiste. Une école liée au Miligorus, vous savez, c'est cette association qui a déjà fait parler d'elle au moment de la construction de la mosquée de Strasbourg. Et on a un vrai problème, c'est que cette implantation se ferait dans un quartier difficile. On est avec une association islamiste qui a de véritables objectifs de réislamisation de la population qu'elle cible. Et on est dans un quartier difficile et sur une proposition d'école hors contrat, tournée vers des valeurs qui sont contraires à celles de la République et qui a une capacité d'accueil qui représente un quart des enfants de la ville. Et ce maire a décidé de se battre de façon très concrète contre cette association. Le résultat, c'est que ceux qui, quelque part, attaquent nos valeurs républicaines et sont rattachés à une idéologie totalitaire, l'islamisme, ont été confortés. Et que celui qui se bat pour l'émancipation, pour la République et pour la démocratie, a été humilié dans un cadre où on n'arrête pas de nous expliquer qu'en fait, il paraît qu'on a besoin de rien pour combattre l'islamisme. La preuve que c'est parfaitement faux.
Alors Philippe Bilger, vous avez entendu Céline Pina, Miligorus, c'est une association turque. On a vu comment Erdogan a traité Ursula von der Leyen cette semaine.
Ouais,
est-ce que quelque part en France, il n'y a pas une certaine schizophrénie à dire on lutte contre l'islam politique, l'islam radical, mais le tribunal dit qu'il faut qu'une école ouvertement islamiste ouvre ses portes.
Mais je pense que la France, et peut-être pas seulement la France, est écartelée entre ses désirs profonds et l'état de droit dans une définition parfaitement superficielle et, de mon sens, et à mon sens, incomplète. Donc il y a une schizophrénie qui est presque nécessaire, d'abord entre les promesses et réalisations, entre les aspirations nécessaires et la capacité de les mettre en œuvre, entre la société et la justice, entre les politiques qui sont lucides et une classe politique qui ne l'est pas.
Tom Conan.
Ouais, bon, alors moi, je connais pas ce dossier précisément, mais c'est vrai que je vous cache pas être, je vais un peu botter en touche, hein, je suis navré, mais ces questions, moi, de religion et d'ingérence ou pas d'ingérence de l'État, la sphère publique, de manière directe ou indirecte dans les questions religieuses, moi, je suis juste fatigué de tout ça, je veux plus entendre parler, moi. Je parle pas ici, hein, mais de manière générale, c'est-à-dire que aujourd'hui, ces débats-là, ces questions-là, en fait, confisquent une grande partie de l'espace politique, médiatique, culturel, même dans les relations avec les amis, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé assez récemment, assez régulièrement, m'embrouiller sur des questions comme ça avec mes amis, alors que j'aime
donc
pas
vous faites
la vie
des
tranchée.
Clandestins.
Hein?
Si vous embrouillez avec vos amis, si vous faites des dîners clandestins,
vrai,
il s'est trahit.
Ouais. Mais je
on
m'en fous ceci.
On a le droit
ceci,
de voir
mais...
des gens de temps en temps quand
mais
même.
Mais non, mais
que...
j'aurais dû à moins de 6. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, dans l'absolu, c'est que la question religieuse, à mon sens, le fait religieux, il existe parfaitement. Il y a pas de problème là-dessus. Mais l'hystérie permanente autour des questions religieuses, dans un sens pro ou anti, j'ai envie de dire, quel que soit le positionnement, moi, je le supporte plus. Je sais que Céline Pina travaille pas mal avec Michel Onfray, il me semble, et Michel Onfray, à une époque, il a écrit un bouquin qui s'appelait Le traité de la théologie, il me semble bien, et qui avait été pas mal lu. Et moi, je pense qu'il faudrait revenir peut-être à
gros
ça,
succès.
Vous voyez, à une espèce d'espace public qui n'est plus confisqué par ces questions-là, et on a le droit d'être athée, peut-être, mais voilà, mettre ces questions peut-être au second plan.
Céline Pina.
En fait, le problème, c'est que ça n'est pas religieux. Parce que si c'était religieux, ça resterait dans une sphère personnelle. Après tout, quelqu'un peut être très intégriste dans sa religion et n'enquiquiner personne au sein de la société. Là, le problème, c'est que c'est un mouvement politique qui a une vision très très claire et qui commence, en fait, la rupture commence par le refus de l'égalité. Ce mouvement-là estime que la femme n'a pas le droit à l'égalité à cause de son sexe. Certains n'ont pas le droit à l'égalité à cause de leur pratique sexuelle, d'autres à cause de leur couleur de peau,
les homosexuels,
à cause de leur religion.
Ouais.
En fait, c'est une société extrêmement séparatiste qui s'attaque en premier lieu d'abord à l'égalité entre les hommes parce qu'ils estiment que les hommes n'ont pas la même dignité humaine. Et quand vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans un phénomène de violence totalitaire. À partir du moment où vous discutez de la dignité humaine de certains à cause de leur sexe, de leur couleur de peau, etc., vous pouvez aller très très loin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le refus absolu de la liberté et de la séparation entre le public et le privé. Le totalitarisme, c'est ça. Ça veut dire que le dirigeant politique porte des regards sur tout ce qui fait le quotidien, y compris ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans les relations interpersonnelles. C'est cette violence cela qu'on essaie de nous vendre et c'est en fait une volonté de briser la société au point que la notion de guerre civile est rentrée aujourd'hui dans le vocabulaire de la science politique, ce qui n'était plus le cas.
Mais justement, peut-être que pour opposer un petit peu, s'opposer à ce mouvement aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas justement mettre en avant un idéal quand même de tolérance, hein. Je sais que Jacques Attali, à un moment donné, qui est beaucoup décrié pour plein de raisons, il disait qu'à
on
un moment
a
donné,
raison à un tome.
Ouais, peut-être a raison, mais il ne dit pas que des bêtises. Et à un moment donné, dans le monde, pour être vraiment pragmatique, dans le monde multiculturel qui est le nôtre aujourd'hui, et ce n'est pas qu'en France, un principe de respect, de tolérance me semble être le seul possible en fait. C'est même pas un principe philosophique ou politique, c'est juste un principe de politique publique, en fait, pour que la cohabitation soit possible.
Philippe Bilger, pour que la cohabitation soit
possible,
vous voulez réagir
à
la
laïcité.
Oui. Comme le disait justement Céline Pina, est-ce que la solution, c'est pas remettre la laïcité en première ligne? Parce qu'aujourd'hui, elle est quand même, les Français le disent, en danger.
Oui, mais
on ne cesse d'en parler et je rejoins Tom sur ce plan-là. On veut la remettre en première ligne, mais je veux rassurer mon ami Tom Conan. Si je me passionne pour le religieux, c'est que je préfère que c'est encore un thème plus agréable que la Covid-19. Parce que franchement, j'en ai marre.
Ça, je suis bien d'accord.
Voilà.
Non, mais sérieusement, Philippe Bilger, la laïcité est attaquée et quelque part, on comprend pourquoi elle est attaquée, parce que les religions veulent reprendre la place qu'elles ont perdue depuis un peu plus d'un siècle en France.
Mais c'est pas seulement ça, il me semble. Pardon.
Non, mais, oui, vas-y, Tom.
Oui,
vas-y.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la laïcité, c'est un principe, moi, auquel je suis tout à fait attaché, mais c'est un principe qui est français, enfin, en tout cas, qui est principalement utilisé
très
en France.
Très décrié par les anglo-saxons.
Voilà, mais donc, et ouais. Précisément, c'est pas un principe qui est universel, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un principe qui est universel, disons abstraitement, mais en pratique, la totalité des pays n'applique pas la laïcité, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a des théocraties, il y a aussi des pays beaucoup plus communautaristes dans leur logique. Et donc, à un moment donné, en fait, moi je suis pas pour amender la laïcité, mais c'est vrai que quand il y a des communautés qui viennent de pays et de cultures qui n'appliquent pas la laïcité, forcément qu'il y a à un moment donné un clash, parce qu'effectivement, il y a des modèles culturels et civilisationnels, des gens qui veulent aussi importer d'autres modèles.
Sauf que j'allais
modèles.
Dire, quand vous allez chez quelqu'un, vous respectez la civilité
qu'il y a. À Rome, faites comme font les Romains.
Voilà, à Rome, faites comme les Romains. Voilà. Et à un moment donné, un des problèmes qui est en train de se poser aujourd'hui, c'est qu'il y a des revendications pour faire naître une autre forme de civilisation, une autre forme de société politique sur notre sol. Or, nous fonctionnons de façon... Il n'y a pas deux sociétés possibles. Et c'est là que le bas blesse.
Vous êtes bien sur Sud Radio, Les Vraies Voix, 17h26. Dans quelques instants, notre premier débat. Croyez-vous au retour des libertés à la fin de la pandémie ? Moi, je rêve d'aller au restaurant avec Philippe Bilger, avec Céline Pina, avec Tom Collin.
Mais vous payez, Philippe.
Ah ben non, j'allais vous rendre la politesse.
Invitez-moi, moi je coûte rien au restaurant. Je vous promets.
Moi j'invite tout le monde.
Parfait. Ah ben c'est gentil,
la note sera pour Tom, on se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée, comme une perle rare.
Magnifique chanson, Serge Reggiani. On va retrouver une vie normale dans quelques mois, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin, qui a rassuré sur la campagne de vaccination. Olivier Véran qui a parlé d'une sortie de crise par étapes, pas comme en mai 2020 où le gouvernement avait déconfiné beaucoup trop vite. Le ministre de la Santé a rajouté, je cite, « Nous reprendrons davantage de liberté une fois passé de l'autre côté de la vague épidémique, d'où notre question. Croyez-vous au retour des libertés à la fin de la pandémie ?» Eh bien pour le moment, vous êtes 82% à dire non, et c'est l'heure du duel.
C'est l'heure du duel.
Moi, quand on parle liberté, j'imagine les grandes plages de l'Atlantique, parce que Philippe Bilger, si on va au restaurant, c'est nous qui paierons, ils viennent nous le dire. Direction voilà. Arcachon, bonsoir Frédéric.
Bonsoir Philippe, et bonsoir à toute l'équipe, et bonsoir. Merci de me prendre à l'antenne.
C'est avec plaisir, et vous pensez qu'il n'y aura pas de vrai retour des libertés ?
Oh ben non, attendez, non, quand on arrive à gagner des choses comme ça, qu'on arrive à rogner comme ça sur la liberté publique, non, je pense pas. Ou alors, il faudrait qu'on ait carrément un vrai changement de politique avec surtout un changement de constitution. Mais sans ça, je n'y crois pas un mot. Bon, quant à la fin de la pandémie, je crois qu'on se fait quand même pas mal d'illusions. Je crois qu'on n'a pas fini, il va y avoir une adaptation. Hein, on va s'adapter, je pense. Les campagnes de vaccins, bon, reste utile dans le sens où elles vont peut-être permettre quand même à la majorité d'individus de créer un petit peu de défense. Par contre, j'ouvrirai une parenthèse très négative sur le problème Astra qui m'inquiète beaucoup. Parce que c'est quelque chose, je parle au nom de mon médecin même. C'est un produit qui est quand même...
On va revenir sur le sujet. Ouais. Vous pensez qu'on va revenir sur une liberté, mais un peu au rabais ?
Oui, bien sûr.
Le duel, on donne la parole à Céline Pina qui, elle, pense qu'on va retrouver nos libertés.
Mais en fait, figurez-vous qu'il y a des gens qui se sont déjà posé cette question-là, et notamment quelqu'un de très célèbre qui s'appelle Julien Banda. Julien Banda, il est connu...
Beaucoup moins que Philippe Bilger. Hein.
Oui, beaucoup moins que
Philippe Bilger.
Ça, c'est sûr. Mais
oui.
Julien Banda, en tout cas, il est connu pour une critique, justement, des intellectuels. Mais il a aussi écrit un autre livre qui est moins connu, mais qui s'appelle La grande épreuve des démocraties, qu'il écrit en 42. Et en 42, il dit le problème des démocraties, c'est que par rapport à un État totalitaire, elles sont faibles. Donc le seul moyen qu'elles ont pour se défendre quand elles sont agressées dans une situation de guerre, c'est de suspendre un certain nombre de leurs libertés, de leurs droits, le temps de faire la guerre. Mais lui dit, elles ne sont des démocraties que si une fois le péril passé, elles savent redonner à leurs citoyens ou que leurs citoyens savent se réemparer de leurs droits et toute la noblesse des démocraties et savoir de temps en temps se contraindre, mais pour mieux retrouver la totalité de ses droits. Et donc, c'est ce que j'invite tout le monde à faire et ce que je crois qu'il se passera.
Philippe Bilger, vous êtes plutôt Frédéric d'Arcachon qui pense qu'on va avoir une liberté. Bah tiens, par exemple, le passeport sanitaire. Tiens, par exemple, on aura encore l'obligation de porter le masque dans les lieux publics ou qu'on reviendra à la vie. Je vais fantasmer comme avant.
Vous savez, mon cher Philippe, que malgré les apparences, quand je vous rencontre, je suis un optimiste incorrigible. Et donc, je pense que je suis persuadé qu'on retrouvera les libertés. Et si vous me le permettez, je voudrais inscrire ma réponse dans quelque chose que j'ai toujours pensé. Non pas que ce soit le gage de la vérité absolue, mais à propos de toutes les lois qui ont été qualifiées de liberticides pour le terrorisme, pour lutter contre le fléau, j'ai toujours considéré, mais quitte à être contredit par mes amis, que la structure démocratique garantissait le caractère légitime de tout ce qu'elle allait décider. Et donc, je ne vois pas de raison aujourd'hui pour que la France, ayant été obligée de prendre des mesures de contraintes sanitaires, ne serait pas prête à les abandonner demain lorsque la situation le permettra. Donc, vous voyez que je présume la démocratie et après je valide tout ce qu'elle décide, et donc encore une fois je suis persuadé qu'il n'y a pas de fatalité pour qu'on perde nos libertés.
Tom Conan, ouais. Êtes-vous biligéro-pinayen ou êtes-vous d'accord avec Frédéric d'Arcachon?
Avec Frédéric peut-être, en tout cas sur le début de sa réponse, parce que effectivement Philippe Bilger dit lorsque la société le permettra, la situation le permettra, mais sauf que il y a Bloomberg, vous savez l'agence financière américaine, qui disait il y a quelques semaines et qui l'a répété à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'actuellement, si on suit le rythme de vaccination actuel, qui est quand même assez important, mais avec quand même quelques petits revers, s'agissant de certains vaccins notamment, suivez mon regard, mais donc, ça pourrait prendre jusqu'à 7,2 années pour arriver effectivement à une vaccination
complète. Ça nous amène à 2028.
Non, mais donc en fait, ce que je veux dire, c'est que... Non, et c'était pas une blague, c'était pas...
Mais ce qui veut dire l'éradication de la maladie, en fait.
Oui, l'éradication, et puis même le fait d'arriver effectivement à un seuil de vaccination qui puisse amener à l'immunité collective. Je pense que maintenant, aujourd'hui, le seul espoir, c'est le vaccin. Aujourd'hui, il faut vacciner massivement. Enfin, ça me semble assez évident. C'est vraiment la seule issue possible et pertinente. Et effectivement, à l'issue de ce processus, il y aura un retour des libertés plus ou moins complet. Mais encore une fois, comme ces efforts-là vont être très très longs à mettre en œuvre, c'est un effort logistique absolument considérable. Moi, je me réjouis quand même que le gouvernement, enfin, ait un petit peu mis les bouchées doubles et passé la seconde en ce sens. Mais effectivement, je pense qu'on va malheureusement devoir après faire face à des mesures un peu d'entre-deux, effectivement, peut-être avec des QR codes, vous savez, ou un passeport vaccinal. Pourquoi pas ? Je veux dire, moi, ça me dérange. Mais donc, ça veut bien dire que donc, il n'y aura pas un retour des libertés total et complet avant, à mon avis, pas mal de temps, peut-être même plusieurs années. Mais peut-être pour que les choses soient un peu moins déprimantes, comme on a instauré le port du masque, moi, je suis aussi pour le port du bandana. pour ceux qui regarderont la vidéo, pour résister avec style.
Ah oui, ça résiste avec
style. Très important.
Frédéric d'Arcachon, vous êtes toujours avec nous ?
Toujours là, oui.
Quelle est la liberté qui vous manque le plus aujourd'hui?
C'est-à-dire la liberté, le mot liberté nous met un petit peu dans le sens où si quand il y a un risque sanitaire, est-ce qu'il est normal de l'enfreindre pour une satisfaction personnelle ou pas? Et j'avoue, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est surtout le problème, c'est qu'on dans ce pays, ce jacobinisme, si vous voulez, même m'outrance, il faut tout faire ou rien faire. Bon, alors moi je vais parler de la région ici. Il y a par exemple beaucoup de restaurateurs qui ont des terrasses, qui ont tout ça, on pourrait quand même proposer quelque chose maintenant que les beaux jours arrivent.
Excusez-moi, les plages du Médoc ou des Landes, les terrasses, il y a de la place.
Ben oui.
Et puis il y a du vent tout le temps, donc ça aère, quoi.
Exactement. Donc on pourrait quand même. Moi ça, la restauration m'embête. Je vous cacherai pas qu'elle allait pouvoir prendre un
alors,
manger quelque chose.
La restauration. Attendez, je vais faire réagir nos vraies voix. C'est quoi la liberté qui vous manque le plus, Céline Pina?
Mais c'est pareil. C'est en fait les cafés. J'adore les cafés, j'ai toujours aimé ça. J'aime travailler dans les cafés, j'aime regarder les gens dans les cafés. Je m'en fous que le café soit mauvais. Ce que j'aime, c'est le monde, la vie.
Philippe Bilger, quelle est la liberté qui vous manque le plus aujourd'hui ?
Aujourd'hui,
nous inviter au restaurant, on l'a compris.
Non, mais vraiment, le fait de ne pas pouvoir décider dans l'improvisation d'aller déjeuner ou dîner, même avec quelqu'un d'agréable, donc ce ne serait pas avec vous, bien sûr. mais... Mais le restaurant, la liberté du restaurant, le bonheur du restaurant.
Tom Conan.
Alors, moi, de manière plus générale, et ça inclut pas mal de choses, c'est la fête en général. Où est-ce qu'on fait la fête? Vous savez, il y a ce film, Le sens de la fête, avec Jean-Pierre Bacri, le pauvre qui est décédé récemment, qui a un très beau film. Mais par ailleurs, effectivement, moi, c'est pas les bars spécialement, c'est les bars, les restos, les boîtes et tout lieu permettant effectivement de se retrouver et effectivement de rencontrer des gens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut s'arranger avec des systèmes, vous voyez, de location d'Airbnb, d'autres choses d'un peu de ce type-là, pour voir des gens, mais c'est des gens qu'on connaît déjà. Allez-y pour rencontrer quelqu'un, y compris pour une personne avec qui vous pourriez avoir certains projets personnels. La première fois dans un Airbnb, dans un hôtel, c'est quand même invraisemblable. Oui, moi, ça m'est arrivé récemment et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé aux Tuileries, voilà, on s'est baladé pendant une heure et demie dans Paris, on se caillait un peu les miches aussi. Non, mais c'est glauque.
Les miches.
Et on reste comme
vous
ça. Ouais, exactement. C'est quand même un peu. Ça va défoncer notre vie personnelle. Et pour ça, vraiment, je suis très remonté.
Verdict sur Twitter. Merci beaucoup à Frédéric d'Arcachon, qu'on salue. Et je dois le dire, je vais vous faire une confidence. Philippe Bilger, Céline Pinette, Tom Conan. Quand ce sera terminé, quel bonheur j'aurais de faire une émission avec vous à Arcachon du côté de la plage. Ah, ça vous dirait pas?
Clairement.
Oui, mais déjà, vous échappez au déjeuner que vous devrez nous payer.
Sournois.
Parole la guêpe. Verdict sur Twitter. Vous êtes 82% à penser que non, les libertés ne reviendront pas comme avant la pandémie. Second débat de suite.
Les vraies voix Sud Radio.
Pose ton gun, oui, vous reconnaissez NTM, le groupe préféré de Philippe Bilger. Braquage spectaculaire.
Ah ouais, surtout Joëlle Starr.
Oui. Braquage spectaculaire cette nuit dans le célèbre palace parisien, le Georges V, en plein couvre-feu. Muni d'armes à feu et de haches, et après avoir cassé plusieurs vitrines, deux malfaiteurs ont dérobé plus de 100 000 euros de bijoux et se sont enfuis sans être rattrapés par la police. L'an dernier, les agressions et homicides ont nettement augmenté selon le ministère de l'Intérieur. L'insécurité s'aggrave-t-elle? C'est le second débat et pour le moment, vous êtes 85% à dire oui. Philippe Bilger, vous savez que j'aime bien parfois être un peu provoque. Finalement,
vous l'êtes tout le temps.
Jamais. Finalement, on risque plus d'être verbalisé ou arrêté par la police en buvant un verre de rosé sur la plage, je reviens à Arcachon, qu'en braquant en plein couvre-feu le Georges V. En plein centre
là,
de
vous
Paris.
Êtes, pour une fois, vous êtes un peu trop provocateur, Philippe. Et évidemment, je reconnais bien le sens de la nuance de Sud Radio qui pose une question, qui appelle une réponse. Sérieusement, Philippe, bien sûr, il est paradoxal qu'on puisse opérer de cette manière dans une période où théoriquement les transgressions devraient être plus visibles. Mais je ne voudrais pas qu'on induise à partir de cet acte audacieux mais qui n'a pas rapporté en définitive un gros butin pour ces malfaiteurs.
100 000 euros, c'est quand même pas mal.
Oui. Non, mais par rapport à ce qu'ils espéraient, c'est évident, ils espéraient davantage. Je ne voudrais pas qu'on induise de cet événement quelque chose qui justifierait une approche globale. Vous voyez, je ne fuis pas le débat, mon cher Philippe, mais je suis accroché à mon sens de la nuance.
Oui, enfin 100 000 euros, c'est pas beaucoup. Je suis un peu inquiet pour la note de restaurant quand il va falloir inviter Philippe Bilger. Céline Pina.
Oui, absolument.
Non, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que je pense pas que ce soit là où la montée de la violence soit la plus révélatrice. Autrement dit, à partir du moment où vous avez un ensauvagement global de la société, mais qui est aussi lié à la récurrence de certaines difficultés, à des problèmes d'affirmation de l'autorité qui font que tout le monde se dit que bon, bah, pourquoi pas, les gens transgressent, il n'y a pas de punition, et puis punition sans punition. À la fin, on commet de plus en plus de choses. Donc oui, il y a, on sent ces derniers temps que les violences entre personnes augmentent en tout cas énormément. C'est dans un contexte global. Et malheureusement, je pense que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas de réponse à la hauteur et qu'aujourd'hui, en plus, on se demande s'il est possible de donner une réponse. Parce que le problème, c'est que pour arrêter la violence, il faut en commettre d'autres. Et que l'image, vous ne pouvez pas maintenir l'ordre sans être brutal est compliqué dans certaines situations et que l'image flingue complètement l'action des policiers.
Alors, moi, je suis évidemment, je condamne ce braquage, bien entendu, mais je dirais, en fait, si je les avais...
Non-obstant votre bandana.
Voilà, et encore une fois, je n'étais pas dans la bande, ce n'était pas moi. Mais par contre, je pourrais recommander à ces personnes que ce n'était peut-être pas la bonne stratégie, parce qu'aujourd'hui, pour gagner beaucoup d'argent, il vaut beaucoup plus parier sur le bitcoin ou les crypto-monnaies, par exemple. Vous savez que maintenant, les sommes en cause sont de plus en plus élevées.
Délirantes.
C'est impressionnant. Il y a aussi le marché des NFT qui concerne l'art digital. Vous savez, il y a une œuvre à 69 millions de dollars qui a été adjugée il y a quelques semaines chez Christie's par l'artiste Beeple, Mike Winkelmann. Donc c'est assez impressionnant ce qui se passe. Et en fait, par ailleurs, aujourd'hui, la richesse de plus en plus va être totalement dématérialisée avec les bitcoins, les crypto-monnaies, les NFT, je l'ai cité pour l'art digital. Et donc peut-être demain, bah, en fait,
c'est les hackers en fait, qui vont nous
exactement,
braquer.
Exactement, parce qu'aujourd'hui, la richesse, la vraie richesse, aujourd'hui, elle est de plus en plus numérique et dématérialisée.
Donc en fait,
donc,
finalement,
Tom,
l'intelligence
Tom,
contre la violence.
Ils n'ont pas été assez criminels, mon cher Tom.
En fait, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas sur le bon créneau. Hein, donc, il y a deux types de créneaux.
En fait, ce que Tom veut dire, c'est qu'en termes
de
rentabilité...
Pas, hein.
Je ne conseille pas, bien sûr. Mais...
C'est qu'en gros, en termes de rendement, finalement, la brutalité et la violence, c'est petits joueurs.
Quand je vous entends tous les trois, j'ai l'impression qu'il va falloir rebaptiser les vraies voix, les Dalton. Direction Perpignan. Bonsoir, Sabine.
Bonsoir tout le monde.
Vous nous appelez au 0826-300-300. Est-ce que vous pensez que l'insécurité s'aggrave?
Oh oui, oui, beaucoup. Mais l'insécurité, mais en plus qu'il n'y ait pas de justice. Excusez-moi, monsieur Bilger.
La justice, ah non, mais allez-y. Je serais l'exception qui aurait confirmé la règle.
Ce soir, il est Joe Dalton, donc il vous écoute.
Je suis très bonne humeur ce soir, bizarrement.
Oui, moi je trouve que la justice est trop laxiste. La justice, elle pense pas à ceux que justement ils sont les victimes. On condamne, oui, on condamne, mais toujours avec sursis. C'est-à-dire que la victime, elle n'a pas de sursis. Elle a encaissé le coup, elle a encaissé le vol, elle a encaissé tout. Voilà. Donc la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, mais je pense aux victimes, on les condamne, mais qui passent de la prison ferme, ou alors qu'on les envoie faire des travaux d'intérêt, ou qu'on leur fasse faire quelque chose pour rembourser ce qu'ils ont fait. Maintenant, on dit, oh, on vous condamne à 6 mois, et puis avec sursis, donc vous repartez au bout de la 15e fois, de la 20e fois. Alors, c'est quoi ça?
Puis-je vous faire
je vais donner la parole à l'avocat
madame.
Général qui va requérir contre vous, Philippe Bilger.
J'allais faire un reproche très amical à Sabine. Je constate qu'elle écoute trop Philippe David lors des vraies voix, parce qu'elle développe exactement ce qu'il profère en général, et malgré ma contradiction, il continue à penser la même chose. C'est invraisemblable.
Sabine, vous avez d'excellentes sources d'inspiration.
Je pense que c'est beaucoup de personnes qui le vivent,
oui,
qui ne l'entendent pas,
raison.
Et qui le
jouent.
À partir de là, je trouve que c'est cette personne-là qui le vive mérite du respect et mérite au moins qu'on les écoute et qu'on les condamne.
Mais vous avez raison. Mais c'est le cas.
C'est certain.
Tom Conan.
Ouais, en vrai, moi, j'ai pas eu tous les chiffres et je suis pas du tout un spécialiste de ces questions, loin de là, mais j'ai pas le sentiment, parce que vous savez, on parle de sentiment d'insécurité. Moi, il m'arrive parfois d'être à Saint-Denis à 1h du matin. Bon, après, je suis pas une femme.
Il y a un couvre-feu,
mais quand il y a des autorisations professionnelles, je peux aussi aller en dehors du couvre-feu. Je traîne mes guêtres dans pas mal d'endroits, et depuis pas mal de temps quand même. Et je dis pas qu'il se passe rien, hein, il y a des insécurités mal d'endroits, en région parisienne, il n'y a pas de doute, et ailleurs. Mais est-ce qu'il y a une montée de l'insécurité? Je suis absolument pas certain de ça, de ce phénomène-là. Il y a quand même beaucoup d'extrapolation par rapport à des phénomènes qui ont lieu régulièrement.
Le mot de la fin, rapidement,
non,
une minute.
Juste pour dire qu'en fait, il y a une montée de l'insécurité, pas partout, pas surtout, notamment par exemple les cambriolages ont plutôt tendance à diminuer. En revanche, les violences sur les personnes ne cessent d'augmenter, ce qui est très inquiétant pour prendre la température d'une société.
Okay.
Verdict sur Twitter. Braquage au Georges V en plein couvre-feu, l'insécurité s'aggrave-t-elle? Eh bien, pour le moment, vous êtes 85% à dire oui. Un score brejnevien. Dans quelques instants...
Bizarrement, je l'aurais parié.
Ça vous dirait de jouer dans quelques instants, les vraies voix, au roi de l'info?
Non, on veut gagner, en fait.
Eh bien, écoutez, on va jouer dans quelques instants en compagnie de Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Tom Conan. Il est arrivé avec ses trompettes, son chat et son mug. C'est Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
N'oubliez pas le lion, s'il vous plaît, il est très susceptible.
C'est un modèle important. Réduit, le lion.
Je vous propose qu'on accueille un modèle pas du tout réduit au 0826-300-300 pour jouer. C'est Ludovic qui nous appelle de Rochefort. Bonsoir à vous, Ludovic.
Oui, bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde.
Bienvenue à vous.
Bonsoir.
Sur Sud Radio, Ludovic. D'abord, je vais commencer par vous demander de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, Philippe Bilger, Tom Conan ou Céline Pina.
Ah, je vais prendre le grand Philippe Bilger.
Allez, on y va.
Vous Depuis êtes bon... que j'ai dit que je suis de bonne humeur.
Profitez-en.
Est-ce que vous Merci êtes... Ludovic, c'est gentil.
Est-ce que vous êtes fan de Jean-Paul Belmondo, Ludovic?
Alors, j'ai vu quelques films, fan.
Bon, on va voir. C'est pas grave. Films. Je vais vous faire écouter plusieurs extraits de films. On va voir si vous vous rappelez du nom, le nom du film. Si jamais vous vous rappelez pas ou vous trompez, c'est pas grave. Les trois vraies voix finiront par se battre pour savoir qui a la meilleure mémoire cinématographique. On est parti, mon cher Ludovic. À chaque fois, vous répondez en premier. J'ai commencé avec ce premier extrait, Ludovic. On commence avec ce film dans lequel Jean-Paul Belmondo se trahit en chantant affreusement faux. On écoute.
C'en est fait déjà tout l'annonce, la France. Je ne sais pas très bien lire les notes. Mais qui vous envoie? Personne.
Et après, ça se passe mal. Alors, il cherche une certaine mademoiselle de Guérande. Ça se passe sous la Révolution française. Je vous donne un ou deux indices. Oui. Vous l'avez ou pas, mon cher Ludovic?
Alors, je pense que quand le film est sorti, je n'étais pas né.
Si. Il y a des chances. Il est pas
si. Quand même. Je ne l'ai pas.
Vous passez pas? Vous passez? Allez, oui, battez-vous, les vrais voix.
Cartouche.
Ah, il y a l'an 2 de la République, un truc comme ça, non?
Un truc comme ça.
Vous avez raison sur l'an 2.
Voilà. Bravo, Céline.
L'an 2.
Ah, voilà. Les mariés de l'an 2. Alors, je sais pas si vous étiez né, mon cher Ludovic. J'ai supposé, c'est sorti en...
C'est grâce à toi, Philippe,
c'est sorti en 1971. C'était...
Voilà. Avec Marlène Jobert.
Voilà, avec Marlène Jobert.
Donc, je n'étais pas né.
Vous n'étiez pas né. Ben voilà, j'ai présumé, vous voyez. Moi non plus, on est deux dans le cas. En tout cas, c'était pas loin.
Ça va, hein.
Allez, ça fait. Vous n'avez pas le premier point, c'est pas grave. Je vous propose un deuxième extrait. Alors, c'est pas facile, mais je vous donnerai peut-être un indice après, mon cher Ludovic. C'est un film culte, je vous préviens, on écoute.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Rosen est mort. N'Djala est mort. Quant à moi, ça se décide en ce moment.
Et ça va pas tarder, peut-être ou pas. Vous l'avez pas? C'est pas facile, Ludovic?
Non,
je vous donne un indice.
Oh.
Est-ce que vous l'avez sur le bout de la langue?
Royal Canin.
Merci. Oui, attendez.
Il n'y a plus de Royal Canin. Mais...
C'est ça. Mais le nom du film.
Oui, le titre, le tueur ou je sais plus quoi.
Non, c'est pas un amateur, Ludovic.
Ouais. Le professionnel.
Bravo. On va continuer, Ludovic, c'est pas grave, c'est effectivement le professionnel avec cette musique qui est restée.
Joss Bobon.
Extrêmement
vous célèbre. Vous êtes gentil, Jean-Marie, ouais. Vous nous donnez des pistes.
Ah, parce que c'est des extraits très courts.
Pourtant, je l'ai vu.
Comme pour les bourgeois d'hier soir.
Voilà, exactement.
Je pense que j'ai autant de chances de gagner que Philippe David a autant de chances d'arriver à pronostiquer un bon match.
Alors,
je suis persuadé
que vous avez davantage de chances, Ludovic, et de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment avec vous. Et
vous êtes vraiment bien, Ludovic. Vous voyez juste.
Allez, on continue, Ludovic. Cette fois-ci, je vous emmène pendant la guerre, dans le désert. On écoute.
C'est drôle. Même au milieu des trous d'obus. Même sur une place crevassée, esquintée, c'est pendant une banque.
C'est pendant une banque, disait Jean-Paul Belmondo devant la banque qu'il voulait braquer. Le trésor de la Banque de France, c'était un soldat français en pleine déroute. Est-ce que vous l'avez?
Je pense aux légionnaires, mais je ne doute
pas. C'est pas celui-là, mais c'est pas loin.
Il est légionnaire.
Il est légionnaire.
Taxi pour tout.
Non.
Ah oui, il est légionnaire, mais
c'est bel et bien un film de Verneuil, en revanche. Qu'est-ce qu'on dit,
Morfalou?
Oui,
voilà.
On va l'accorder à Philippe Bilger et à Ludovic. Vous l'avez trop chuchoté, Céline, mais vous aviez l'idée. Les Morfalous, vous avez un point, Ludovic. On termine. J'ai terminé avec cet extrait. Il y a un énorme indice dans l'extrait. Mon cher Ludovic, on est sur la plage.
Bien sûr qu'il y a des vagues.
Bien sûr, Chloé Bonne. Bien sûr qu'il y a la mer. On est à Rio.
On est à Rio.
Ah, l'homme de... pardon.
L'homme de Rio.
Voilà, c'est pas grave. Il vous a permis quand même de gagner, Philippe Bilger. Vous voyez, Ludovic.
Bravo, Ludovic.
Mais je ne doutais pas de Philippe. Et puis,
on forme une bonne équipe tous les deux. Si seulement on pouvait parler de Belmondo tous les soirs.
Écoutez, en tout cas, ça tombe très bien, mon cher Ludovic, d'abord, parce que Philippe David va vous le redire. Dans une bonne vingtaine de minutes sur Sud Radio, on parlera de l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo, qui a 88 ans aujourd'hui. Et on prendra de ses nouvelles en direct dans Les Vraies Voix Sud Radio avec Philippe David, qui recevra l'avocat de Jean-Paul Belmondo, qui nous dira comment il se porte aujourd'hui, le jour de son anniversaire.
Et mon cher Jean-Marie, je note que vous n'avez pas l'esprit religieux, vous n'avez pas choisi un grand film, Léo Morin Prêtre. Ah, il y a des laïcards dans cette émission.
Ah bah écoutez, il y en a un qui a écrit un livre sur la laïcité, mais je ne soufflerai pas le nom en tout cas. Quoi qu'il en soit, restez en ligne mon cher Ludovic. D'abord on vous embrasse, on était très content de jouer avec vous.
Merci.
Et puis
Jean-Marie.
On va vous récupérer au standard de Sud Radio, on vous envoie un mug, Sud Radio.
Avec grand plaisir.
Comme ça le petit déjeuner, le chocolat chaud ou tout ce que vous voulez dedans, à la santé de Jean-Paul Belmondo. Aujourd'hui.
Et puis surtout, il y a de charmantes demoiselles à Rochefort.
Exactement.
C'est bien connu, c'est toujours du cinéma, mais ce n'était pas avec
mais
Belmondo.
Sous le signe des Gémeaux.
Absolument. Merci beaucoup, Ludovic de Rochefort. À 18h30, notre grand débat. La France est face à un problème d'invasion et de colonisation. C'est Philippe Levilliers qui a dit ça ce matin. Êtes-vous d'accord avec lui? Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Après avoir été en mode Churchill, et on l'a entendu dans Les Rois de l'Info, Les Vraies Voix sont en mode Jean-Paul Belmondo, puisque Bébel fête ses 88 ans aujourd'hui. Et Les Vraies Voix ont toutes quelque chose de Belmondo. Nous serons d'ailleurs à 18h15 en compagnie de Michel Godès, l'avocat de Jean-Paul Belmondo, pour prendre de ses nouvelles. Comme c'est le magnifique des Vraies Voix, on peut imaginer Philippe Bilger avec Pascal dans le rôle de Jacqueline Bisset dans le film Le Magnifique, échangeant ses propos.
Je t'aime. Océan immense comme mon âme. Ta plainte, teintée d'écume, meule un amer mélange.
C'est très beau. De qui est-ce?
De moi. Je vais courir avec toi sur cette plage. Complètement nu. Et lécher le sel de ta peau.
Oh bon.
C'est tout vous, Philippe Bilger.
Pour la femme, c'est plausible, mais pas pour moi.
Comme c'est une bombe et
mais
qu'elle
c'est aime... Mais c'est très beau, Tom. C'est très beau.
Comme c'est une bombe et qu'elle aime le champagne, Céline Pina aurait pu jouer le rôle de Marie Laforêt dans Flic ou Voyou avec Belmondo pour partenaire.
Quelle soirée. J'étais au casino pour remettre une coupe à je ne sais pas qui, ayant gagné je ne sais pas quoi, et ben mon cher monsieur, un attentat.
Non.
Si, une bombe, à ce qui paraît. Non mais vous imaginez ça, une bombe?
Avec la violence qui court, j'imagine tout.
Quelle flègue, mais quelle grande classe, je prends.
Ah bah, il est en Mercedes, elle est en Rolls. Alors inutile de dire qu'en termes de voiture, oui, dans ce passage
plus,
de Flic ou Voyou, c'est quand même pas mal.
En plus, je bats Jean-Paul Belmondo. Si moi j'ai la Rolls, c'est lui la Mercedes. Oh,
c'est vrai.
Non, mais je double prends.
Le dialogue à venir entre Bébel, alias le commissaire divisionnaire Philippe Jordan, et Maître Capa, l'avocat du truand sauveur Mekachi, ressemble un peu à sa manière de débattre, puisque Tom Conan est un peu le marginal des Vraies Voix.
C'est pourquoi il serait souhaitable que des erreurs comme celle de ces derniers jours ne se reproduisent pas. Ou alors, il n'y aurait plus de monsieur le divisionnaire. Il y aurait un commissaire de quartier qui embarquerait les voleurs à la tire et les putes.
Ou plus de commissaire du tout.
Ou plus de commissaire du tout.
Cher maître, je me trompe pas. La police française se trompe pas, les Américains se trompent pas. Votre client est un enfoiré, c'est dans tous les dossiers.
Ça vous va, Bébel dans le
ouais.
marginal?
Ouais, moi ça me va bien. Puis être marginal, genre, c'est quand même presque une sorte d'objectif de vie. Enfin, plus exactement, le rester. Parce que c'est toujours la peur de l'embourgeoisement. Il y a à la fois d'un côté la peur de la pauvreté, la déchéance, et de l'autre côté la peur de l'embourgeoisement. Donc la marginalité, c'est quand même un entre-deux pas mal. Hein.
Alors permettez-moi de
vous
dire que...
Une ligne de crête à ce stade-là.
Une ligne de crête, exactement.
Philippe Bilger a très peur de l'embourgeoisement, parce que hier c'était l'anniversaire de la naissance de Jacques Brel, et il a chanté au micro des Vraies Voix, les bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. N'est-ce pas, Philippe Bilger?
Oui, absolument. Mais Tom, c'est un mystère. En général, je fuis les marginaux et pourtant, je vous aime bien.
Comme quoi, tout arrive.
Et Jean-Marie Borry, au roi de l'info, au clin d'œil aux réseaux sociaux, Jamel Alaria, Zach au standard et Inès au web. À 18h30, notre grand débat. La France est-elle face à un problème d'invasion et de colonisation, comme l'a dit Philippe de Villiers? Êtes-vous d'accord avec lui? On en débattra à partir de 18h30 avec Benjamin Lucas du mouvement Génération. Ça va, les vraies voix? Prêt pour un second tour de table?
Très bien, très bien.
Eh bien, c'est parti pour un second tour de table.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine?
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous, vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu le temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
Et c'est au tour du magnifique des vraies voix. Philippe Bilger, il veut parler de deux choses d'ailleurs rapport aux femmes.
Oui.
Le livre d'une des sociétaires des vraies voix, Yael Mellul, et de Sciences Po.
Ça n'est pas, en effet, Philippe, je vais essayer d'accélérer. Ce n'est pas parce que Yael Mellul est une amie que on n'a pas le droit de parler d'un livre qu'elle a écrit dès lors qu'on dit la vérité. J'espère la dire. Vraiment, j'ai trouvé le livre tout à fait passionnant. D'abord parce qu'elle raconte une vie douloureuse, dramatique, conjugale, familiale, avec beaucoup de talent, et je voudrais louer également la journaliste du Figaro qui a mis en forme tout ce qu'elle a dit, et c'est passionnant de voir à quel point elle raconte tout cela. C'est émouvant, c'est terrible, et le plus formidable, c'est la manière dont elle s'est libérée. Deuxième élément, très vite, c'est que Yael Mellul a sur des points, des problèmes tout à fait importants. Je pense à l'affaire Sauvage, je pense aux violences psychologiques dont elle a réussi à faire une infraction à part, sans que, à mon sens, nécessairement, elle débouche sur des violences physiques. Elle a des points de vue très sains sur l'affaire Tron et, encore une fois, sur l'affaire Sauvage. Donc c'est un féminisme intelligent. Et troisième et dernier lieu, elle a réussi à faire voter un amendement prescrivant, pour aller très vite, le suicide forcé. Là, je suis plus réservé, même si c'est voté, donc il n'y a plus à discuter. Je me demande si cette manière de faire, de vouloir à tout prix réprimer un suicide qu'on estime forcé, ça n'est pas... empêcher, interdire toute possibilité de liberté entre le pire et la liberté humaine. Mais elle m'a déjà répondu là-dessus, et donc je m'arrête là, Philippe. C'est un très bon livre. Et mon deuxième sujet, je vais très vite, j'en ai assez de Sciences Po et je veux dire des gens qui sont en train de discuter, de se concerter, de se coopter. Moi, j'aurais, et notamment dans un entretien de Pascal Perrineau dans Marianne, moi, j'aurais été quelqu'un en passe de décider quelque chose. J'aurais rigoureusement vidé tous les sortants, tous ceux qui, de près ou de loin, avaient affaire avec le Sciences Po récent de Duhamel, et j'aurais remis, j'allais dire, des nouvelles générations aux commandes.
Ouais, voilà. Vous êtes passé par Sciences Po, vous, ouais, Tom Conan.
Ouais, effectivement, là, je rejoins tout à fait ce que dit Philippe Bilger là-dessus, sur la fin.
Pardon, parce qu'on est... Tom, j'ai été trop rapide, là, hein, franchement, mais...
Non, mais
tu vas me compléter.
Non, mais pas du tout, mais c'est vrai que j'ai pas mal suivi, effectivement, cette affaire-là, depuis le début de la polémique, bon, avec l'affaire Duhamel, effectivement, ensuite, après, avec... problème de gouvernance assez important. J'ai reçu un mail tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais il y a quelques jours là-dessus, enfin qui était envoyé à pas mal de personnes, ouais, qui justement critiquaient un petit peu ces pratiques-là. Effectivement, là, je pense qu'il y a un vrai problème réputationnel qui est en jeu, en fait, hein, parce que on voit bien qu'aujourd'hui il y a quand même des standards, disons académiques, nationaux et internationaux, assez élevés. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, quand vous voulez vraiment être dans la cour des grands, dans la recherche, dans l'enseignement, il y a quand même, voilà, encore une fois, ces standards très élevés aujourd'hui à respecter pour, vous savez, l'inclusion, pour les débouchés professionnels, pour la qualité du diplôme, pour tout ça. Enfin bref, il y a énormément de critères. C'est un marché qui est très compétitif. Sciences Po fait partie des bons établissements français et qui s'exportent porte assez bien. Néanmoins, effectivement, là, avec ce genre de choses, ça peut vraiment ternir l'image de manière durable, parce que ces choses-là restent, en fait. Hein, et s'il y a une espèce comme ça d'ambiguïté qui reste dans l'esprit des gens et des futurs élèves, bah, ça peut potentiellement dissuader des candidatures, par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, la France ne peut plus du tout se permettre, vu quand même l'état de son économie, en général, et puis même de ses élites et même de sa jeunesse. Même, par exemple, moi, je sais que je croise pas mal de gens, par exemple, des gens qui ont 20 ans, un peu moins même, qui veulent même plus, par exemple, faire l'étude supérieure en France. En tout cas, qui vont essayer tout de suite, après le bac, de se tirer à l'étranger, ce qui est quand même un vrai problème.
Vraie question. Céline Pina.
Le marginal et le réactionnaire se rejoignent.
Non, vous êtes le magnifique. Oui, le marginal et le magnifique.
Non, en fait, il y a énormément de problèmes. C'est vrai que l'image de Sciences Po commence à être impactée. Il y a, par exemple, une lettre qui tourne en mode « Nous sommes tous Nona Meyer ». Et quand vous lisez la lettre, vous êtes juste hallucinés. Vous avez l'impression de vous retrouver au milieu d'un combat de militants. Moi, ça me rappelle les lettres que s'envoyaient les différents courants du Parti Socialiste. C'est d'un très, très bas niveau intellectuel, argumentaire. Tout le monde explique que l'autre trafique... Que machin, magouille. Enfin, vous regardez ça, vous avez l'impression d'être dans une cour d'école. C'est navrant pour cette école qui, quand même, a formé la plupart de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et qui, quand même, est une école qui, malheureusement, en termes de qualité intellectuelle, est en baisse et que Richard Descoings a énormément abîmé. Et qui aujourd'hui a beaucoup de mal à retrouver une identité. C'est-à-dire, on ne sait plus exactement ce qu'est Sciences Po.
Après, Descoings a quand même, fut un temps, beaucoup développé quand même, hein, à l'international et même au niveau national, beaucoup de formations, etc. Et quand même, la réputation de Sciences Po aujourd'hui, c'est aussi une grande partie l'héritage de Descoings quand même, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire. Mais donc, il y a quand même un vrai héritage Descoings. Mais après, au-delà de ça, je pense que le souci, c'est la politisation. Même le dossier sur l'ENA, j'ai vu que l'ENA allait être supprimé, très bien, Champagne. Ça va changer de nom, mais bon, c'est peut-être très bien parce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai écouté des débats là-dessus. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui voulaient s'accrocher à cette école-là, mais à un moment donné, l'ENA, c'est plus une école, c'est un club. Quand vous avez au concours externe, quoi, il y a quoi, 15 places par an, je veux dire, c'est plus une école, ça n'a aucun sens. Il faut pas politiser les choses. L'enseignement, c'est une question sérieuse.
On en redébattra bien évidemment dans les vraies voix tout de suite. On va parler de Bebel à 18h, près de 18h20. On va parler de ses 88 ans. On sera avec Michel Godest, son avocat. Et comme on est beaucoup de fans de Belmondo, ça va nous faire très plaisir. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Vous reconnaissez Le Vent, Le Cri, musique d'Ennio Morricone. Avec Bebel en héros, nous sommes en compagnie de maître Michel Godest, avocat de Jean-Paul Belmondo, une des dernières légendes du cinéma qui fête ses 88 ans aujourd'hui. Et je remercie Philippe Bilger, grâce à qui on a pu vous avoir, maître. Bonsoir, maître Godest.
Bonsoir.
Comment va Bebel? On l'appelle Bebel, hein, parce qu'on l'aime tous, qui fête ses 88 printemps aujourd'hui.
Mais Bebel, comme vous dites, moi je l'appelle jamais comme ça, hein, mais bon, parce que j'ai à la fois beaucoup d'amitié et beaucoup de respect pour lui, mais je sais que la France entière l'appelle Bebel, et avec toujours beaucoup d'émotion, mais notre Bebel, notre Jean-Paul National, il va bien, c'est une force de la nature, 80 printemps, 88 printemps aujourd'hui, mais il va fêter ses 100 ans, notre Jean-Paul, nos 100 ans.
Ah ben là, on croise les doigts, on touche du bois et on souhaite ça. Quand il parle de sa carrière, Michel Godest, qu'en dit-il?
Ah ben moi, ça fait quelques dizaines d'années que je suis son avocat et très vite, je suis devenu son ami. Donc, je connais bien sa carrière et un de mes plaisirs lorsqu'on va déjeuner ensemble ou dans d'autres occasions, c'est de lui faire parler. Le faire parler sur ses films, sur son théâtre, etc. Et j'en dis que c'est quelqu'un de formidable parce que tout à la fois c'est un de nos monstres sacrés, c'est un grand artiste et en même temps il est d'une simplicité totale, totale. Je me souviens quand il y a 2 ans, donc maintenant, au Festival de Cannes, on avait mis des grandes affiches de Jean-Paul en train de faire ce bisou à Anna Karina, là, dans Pierre Oulfou. On était ensemble en voiture. Il m'a donné un petit coup de coude, il me fait « Alors, c'est qui la star ?»
Donc,
Il se moquait pas, mais enfin, il plaisantait, il prenait ça au deuxième degré, toujours. Et puis, je vois, bon, j'ai été déjeuner avec lui des centaines de fois. Régulièrement, il y a des personnes qui viennent le voir. Oh, monsieur Belmondo, Jean-Paul, Bebel, je sais pas comment Philippe. Vous appelez, mais vraiment, vous nous avez donné tellement de plaisir, tellement de joie. Et lui, ici, des autographes, il fait des selfies avec une simplicité totale. Et sa carrière, pour moi, ça a été ça. Un gars qui a fait des trucs formidables dans tous les domaines. C'est aussi bien le professionnel, oui.
Ah oui, Maître Godès, Philippe Bilger veut vous parler. Alors Philippe oui. Bilger.
Voilà, mais vous l'avez dit, mon cher Philippe, Michel Godès est un ami et néanmoins un grand avocat tout de même. Mais
bien sûr.
Grâce à lui, j'ai pu déjeuner à deux reprises avec Jean-Paul Belmondo et ce qu'il dit, ça m'avait frappé, c'est-à-dire l'absolue simplicité. Et quand il est face à quelqu'un qui connaît sa carrière et moi encore plus sa vie amoureuse, là il était intarissable et il répondait avec beaucoup de gentillesse. Mais c'est quelqu'un qui m'avait frappé et c'est à la fois un monstre sacré, il ne l'est pas quoi.
Céline Pina, c'est un de vos acteurs mythiques pour vous, Jean-Paul Belmondo ?
Ah, moi, j'ai adoré Jean-Paul Belmondo. Je me souviens, quand j'étais petite, il y avait le duel, en fait, Belmondo-Delon. Et en fait, moi, je craquais complètement pour Jean-Paul Belmondo. Je pouvais reconnaître que le physique de Delon était quasiment parfait, mais il ne m'émouvait pas, il ne me touchait pas, il ne me bouleversait pas. Alors que Jean-Paul Belmondo, dans Un singe en hiver...
Ah oui, avec Gabin.
Ah, ouais. Ces deux-là m'amèneraient au bout du monde. Et il y a un film dont a parlé Philippe Bilger, et c'est vrai qu'il est magnifique. Il est peu connu, mais ce film Léon Morin prêtre, j'invite tout le monde à le redécouvrir. C'est un Belmondo tout en retrait, tout en pudeur, dont il faut presque lui arracher. C'est un jeu magnifique. Allez le regarder. Oui.
Tom Conan. Allez-y, Maître Godest, et après Tom Conan. On n'a que des fans de Belmondo, vous allez être content.
J'étais amoureuse de Belmondo. J'étais
amoureuse, encore mieux.
Pourquoi ?
C'est la France entière qui est fan de Belmondo. Mais par exemple, effectivement, c'est un bon exemple. Léon Morin, prêtre, et moi, il me racontait des anecdotes comme ça. J'étais mort de rire. Où effectivement, il allait au tournage et il se mettait en soutane. Et au feu rouge, il draguait. Alors maintenant, faut surtout plus faire ça. Il sifflait les belles filles.
Oulala.
Ça, c'est du Jean-Paul tout craché, quoi.
Balance ton Belmondo. Attention au hashtag. Tom Conan, Belmondo, c'est mythique.
Ouais, alors, moi, c'est que c'est pas trop ma génération. Je connais pas très bien toute la filmographie de Belmondo, mais je me souviens quand même que quand j'étais petit, à la télé, il y avait souvent des films qui repassaient. Et un que je regardais assez souvent quand il passait, il avait l'occasion de passer, c'était Peur sur la ville.
Ah oui.
Avec une musique assez incroyable et qui me faisait beaucoup, très peur, d'ailleurs. Et donc, il y avait effectivement une ambiance. Et surtout pour moi, en fait,
avec
Belmondo.
Avec musique au piano bastringue, notamment avec La Fête foraine.
Et en fait, ça a incarné pour moi aussi le cinéma d'action français, parce que c'est aussi ça, Belmondo, quand même.
Bien sûr,
c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de cinéma français, on parle aussi beaucoup des comédies dramatiques, des films d'auteur, etc. Mais il y a aussi une grande tradition du film d'action très efficace, qui n'a rien à envier à certains classiques américains, par exemple. Et donc, je trouve que c'est bien, parce qu'il faut vraiment le mettre dans le champ du patrimoine cinématographique français.
Michel Godest,
et puis il faisait tout seul.
Voilà, les cascades, bien sûr.
C'est ça,
Michel Godest.
C'est le séducteur qui se prend pas au sérieux. Le séducteur qui vous donne de la vie et qui vous entraîne pas vers la fatalité.
Voilà. Michel Godet, vous pouvez nous faire une confidence, on en a parlé ensemble. Jean-Paul Belmondo vous a toujours dit, Tom Conan parlait de Peur sur la ville, dans lequel il courait sur le métro de la ligne 6. C'était le commissaire Letellier. Je crois qu'il vous a dit que la seule personne qui aurait pu faire une scène avec de telles cascades aussi physiques après sous l'hélicoptère, c'était Philippe Bilger.
Ben non.
Tout à fait.
Non,
tout
mais fait. Michel, mais... ne faites pas attention.
Franchement. Jean-Paul m'a dit plusieurs fois, mais Michel, ton ami Philippe Bilger, faudrait qu'on tourne ensemble. Et j'ai trouvé un hélicoptère biplace. Ah, comme ça, il viendra
attendez, c'est
avec
pas
moi.
C'est pas mon anniversaire aujourd'hui, je le précise.
C'est pas ton anniversaire, mais ça va être ta fête, non. Philippe.
Ah oui, voilà.
Merci beaucoup, Michel Godest, avocat de Jean-Paul Belmondo. On va vous demander une chose, toutes les vraies voix, c'est de l'embrasser de notre part et de lui souhaiter un excellent anniversaire.
Avec plaisir, vous êtes gentil. Merci, voilà. Bonne merci. Journée.
Merci à vous. Dans quelques instants, notre grand débat. La France est face à un problème d'invasion et de colonisation. C'est Philippe de Villiers qui a dit ça ce matin. Êtes-vous d'accord avec lui? On en débattra avec Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Vous voulez réagir? Les réseaux sociaux, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Top Conan. On écoute tout de suite Philippe de Villiers chez nos confrères d'Europe 1. C'était ce matin au micro de Sonia Mabrouk.
Nous sommes face à un problème, non seulement d'invasion, mais de colonisation. Colonisation de peuplement, avec un différentiel démographique qui va nous être très défavorable dans quelques années.
La théorie du grand remplacement, vous la ressortez, Philippe de Villiers.
La théorie du grand remplacement, elle est sous nos yeux. Hein. Il suffit de les gens qui nous regardent, ils vont dans la rue, ils comprennent ce que je suis en train de dire.
Au doigt mouillé, alors on la théorise.
Le doigt mouillé, c'est le meilleur de tous les juges de paix. Ensuite, la colonisation de conquête, avec 200-300 territoires qui ne sont plus français.
Cette déclaration de Philippe de Villiers est très commentée depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Le fondateur du Puy du Fou, ancien ministre et président du Mouvement pour la France, a expliqué que la France faisait face à un grave problème d'invasion et de colonisation. Une théorie du grand remplacement déjà évoquée à plusieurs reprises par Philippe de Villiers. La France face à un problème d'invasion et de colonisation, êtes-vous d'accord avec Philippe de Villiers? Et pour le moment, vous êtes, si ça veut bien marcher, 87% à dire oui, vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Benjamin Lucas, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. J'ai regardé un peu l'histoire. Il y a 30 ans, Valéry Giscard d'Estaing et à l'époque Philippe de Villiers était giscardien. Il faut le rappeler, avait fait le rapport immigration-invasion. C'était en septembre 91, il y a pile 30 ans. Est-ce que quelque part, la boucle n'est pas bouclée?
Écoutez, là, on voit la force de Philippe de Villiers et l'extrême droite, qui est de partir de fake news, de raconter n'importe quoi et d'arriver à structurer autour de ça le débat public et démocratique dans ce pays. Si on veut être un peu sérieux, parce qu'il faut être un peu sérieux, Philippe de Villiers nous parle d'invasion et agite ce théorie, j'aime pas appeler ça pas une théorie, c'est un mensonge de l'extrême droite du grand remplacement qui est notoirement raciste. C'est pas vrai, il y a deux fois plus de Français qui naissent à l'étranger que d'étrangers qui naissent en France. La part des étrangers dans la population française, elle est très très loin d'avoir explosé, et même en proportion, la France accueille moins d'immigrés aujourd'hui que dans les années 70. Donc on voit bien qu'on est face à des mensonges qui visent à quoi finalement? Qui visent à remettre de la haine.
Il y a un souci avec la ligne Zoom. Vous nous entendez, Benjamin Lucas? Allô? Benjamin Lucas, on vous reprend tout de suite, on vous appelle par numéro de téléphone. Ouais. Oui, justement.
Alors, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Benjamin Lucas. Bon, je l'aurais pas forcément dit de cette manière-là, mais effectivement, en fait, je pense qu'on mélange différentes choses. C'est-à-dire qu'on mélange le fait que les populations sont aujourd'hui effectivement brassées, circulent beaucoup plus effectivement qu'à une certaine époque, une prétendue invasion, un remplacement, la théorie de Renaud Camus, effectivement, qui est en effet une théorie raciste, en tout cas racialiste, ça c'est certain, à ce sujet. Mais je pense effectivement qu'on mélange différentes choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est effectivement dans un monde ouvert où il y a des interpénétrations, il y a des mouvements de population beaucoup plus importants qu'auparavant. Et donc, effectivement, les personnes qui ont aujourd'hui la nationalité française n'ont pas tous la même origine ethnique, etc. Par exemple, religieuse, culturelle, ce que vous voulez. Et donc, effectivement, et c'est un phénomène qui est global, puisqu'effectivement, les gens circulent de plus en plus. C'est la mondialisation, même un indépendamment de la mondialisation, c'est l'ouverture des frontières, c'est des échanges, etc. Donc on peut après être contre, moi ça me choque pas qu'on soit contre, mais effectivement c'est pas une invasion en tant que telle, c'est un mélange de cultures et encore une fois de communautés qui s'imbriquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites par exemple, là on est à la radio,
Benjamin,
mais si par exemple on disait par exemple demain à quoi ressemble un Anglais, à quoi ressemble un Italien, à quoi ressemble un Français, vous n'avez pas aujourd'hui une définition précise, fixe, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en fait ce qu'on entend très bien dans les propos de Philippe de Villiers, c'est ça en fait, ce qu'il entend c'est pas l'immigration en tant que telle, c'est vraiment l'origine ethnique des personnes.
Benjamin,
c'est pour ça qu'il a une vision racialiste.
Benjamin Lucas qu'on a retrouvé, et ensuite Philippe Bilger.
Oui, non, je disais qu'il y a deux fois plus de Français qui naissent à l'étranger que d'étrangers qui naissent en France. Je disais que la France accueille moins d'immigrés aujourd'hui que dans les années 70, mais il y a les arguments des chiffres, les arguments matériels, j'allais dire. Et puis il y a aussi, puisque M. De Villiers se réfère beaucoup au catholicisme et à la chrétienté dans son engagement politique, il y a aussi des engagements moraux. Je vais citer le pape François, dont on ne peut pas soupçonner qu'il soit adhérent de mon mouvement politique, même s'il défend le revenu universel d'existence comme nous, qui dit « La réponse aux défis posés par l'immigration contemporaine peut se résumer en quatre verbes, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. » Et il explique même, il tense même les catholiques qui, sur la question des migrants, font, je cite, « prévaloir certaines préférences politiques sur les convictions profondes de leur foi, la dignité inaliénable de chaque personne. » Je crois que M. De Villiers, pour le coup, devrait en revenir à ce que sont les fondements de son engagement politique et pas verser une fois de plus dans la course ou dans la surenchère avec l'extrême droite radicale.
La parole est au pape des vraies voix, Philippe Bilger.
Benjamin Lucas, d'abord, évidemment, je sais que ce qu'a dit Philippe de Villiers n'est pas original. Ça a déjà été dit par Renaud Camus, par Éric Zemmour, qui partagent exactement la même impression. Ce qui me gêne un petit peu dans votre propos, c'est qu'immédiatement, vous cherchez à le disqualifier en disant que c'est de l'extrême droite et que c'est racialiste. Or, pardon de le dire, je ne rejoins pas Philippe de Villiers dans cette vision globaliste, dénonciatrice. On ne peut pas dire, en effet, me semble-t-il, qu'en France, il y a un phénomène d'invasion et de colonisation. En revanche, et il me semble évident, si on veut bien regarder lucidement et froidement certains territoires et certains lieux, que le citoyen de bonne foi peut avoir cette sensation et cette impression sans être forcément stigmatisé comme étant d'extrême droite. Et puisque vous avez parlé du pape François, chacun prend celui qu'il préfère, hein. Vous, c'est le pape François qui a cette vision très politicienne sur les immigrés. Moi, c'est plutôt un autre. Mais en tout cas, je pourrais continuer. Merci en tout cas pour votre intervention.
Benjamin Lucas et ensuite Céline Pina.
Oui, non, je le qualifie comme tel parce que pour moi, prendre un mensonge et en faire un élément d'analyse politique, ce n'est pas s'inscrire dans le cadre démocratique. Enfin, je le redis vraiment, mais d'abord, deux fois plus de Français qui naissent à l'étranger que d'étrangers qui naissent en France. Il est où le grand remplacement? Elle est où l'invasion migratoire? Par ailleurs, vous avez aussi un argument qui est utilisé, je ne sais pas si M. De Villiers l'a utilisé ce matin, j'écoute assez peu M. De Villiers, mais vous avez aussi l'argument économique. Or, il est démontré par des études très sérieuses, pas faites par mon mouvement politique ou par d'autres, faites par des instituts, l'INSEE, l'OCDE, qui démontre qu'en plus l'immigration, elle rapporte de l'argent. Et un dernier point, puisque vous parliez de la question de l'extrême droite, je note en plus, pour être un analyste de la carte électorale de ce pays, pour l'extrême droite et là où ça va être le plus pour le Front National, c'est pas là où il y a la population la plus métissée, la plus mixte, issue d'origines les plus diverses. Donc ce qui prouve bien, encore une fois, c'est là où je dénonce la stratégie de l'extrême droite, qui est de jouer sur les peurs, qui est de jouer sur les fantasmes, pour finalement construire une réalité qui n'est pas la réalité du pays aujourd'hui.
Céline Pina.
Alors, le problème, c'est qu'en fait, on a pas mal de livres qui sont sortis dernièrement sur l'immigration, notamment un livre de Stefanini, mais il y a eu aussi
Patrick Stefanini. Ancien conseiller d'Alain Juppé, notamment.
Pas mal de choses qui sont sorties et qui remettent en cause, en fait, un certain nombre de chiffres qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais sans aller jusqu'à ces remises en cause, par exemple, quand on nous dit l'immigration aujourd'hui est beaucoup plus faible qu'entre les années 60 et 70, par exemple, qui sont des années de forte immigration. En fait, c'est faux. On délivrait à l'époque à peu près 180 000 titres de séjour en moyenne par an entre 1960 et 1967, grosso modo. Aujourd'hui, on est à 260 000 titres entre 2017 et 2019. Et depuis 2011, on est largement au-dessus des 180 000 titres par an. Donc, il faudrait que tout le monde arrête de répéter des éléments de langage comme des mantras et se remettre au goût du jour et regarde la réalité. En fait, on a toujours essayé de vendre l'immigration comme étant une bonne chose. C'est ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est comme la langue. Ésope, qui était un fabuliste, disait de la langue. La langue, ça peut être une très bonne chose quand elle fait du bien et une très mauvaise chose quand elle sème le mal. C'est neutre. Voilà, ça dépend de la façon dont les choses se placent. Ensuite, sur la question de la théorie du remplacement, ce qui est intéressant, c'est que justement, au départ, c'est pas du tout une théorie d'extrême droite. Ce qui se passe, c'est en fait l'ONU. Alors, c'est compliqué à comprendre et le chiffre que je vais donner va faire peur, mais il faut pas l'entendre comme ça. En fait, on est sur des modèles théoriques. Et c'est l'ONU qui, à un moment donné, regarde l'Union européenne et dit, bah alors voilà, c'est un pays qui est vieillissant et elle se pose la question, elle se dit, comment on fait pour que garder le même rapport entre actifs et inactifs qu'on a dans les années 2000 pour plus tard. Et à un moment donné, elle va sortir un truc en disant, pour cela, il faudrait importer une population de remplacement. Et donc, l'Union européenne aurait besoin d'accueillir 674 millions d'immigrés supplémentaires dans... Alors, c'est un truc qui va jusqu'en 2050. Et là, vous comprenez que tout le monde s'affole. Mais en fait, c'est des schémas théoriques qui sont assez vains. Mais la réalité, malgré tout, c'est pas en fait une réalité d'invasion. C'est le sentiment qu'ont les gens que les valeurs auxquelles ils sont attachés, l'égalité, les libertés, mais aussi la sécurité, sociale qui part de l'idée qu'on partage tous un monde commun est en train d'être détruite par des gens qui veulent mettre en place des valeurs qui sont autres, qui refusent l'égalité, etc. Ces gens-là sont marginaux mais sont vus comme pesant très très fort dans le domaine public.
Benjamin Lucas.
Oui, moi je crois que ce qui menace aujourd'hui la sécurité sociale et l'égalité, c'est le manque de partage de richesses dans ce pays. C'est le néolibéralisme qui sévit depuis 30 ans. C'est pas... pour rappeler les chiffres, la part d'étrangers vivant en France, c'est seulement 3 points de pourcentage en plus par rapport en 2020 par rapport aux années 40 ou 50. Donc on voit bien là aussi ce qu'est la réalité. Moi, je crois que c'est ça le sujet. Et vous parliez, madame, vous avez raison, on est sur du ressenti, sur du sentiment.
Ah non, je ne dis pas que c'est du ressenti, j'ai donné des chiffres qui disent le contraire.
Mais sur une forme de peur qui par nature...
de chiffres et de réalité.
Est irrationnelle.
Oui, mais il y a aussi la peur, absolument, bien sûr.
Il y a aujourd'hui de la peur et de l'irrationalité qui est entretenue à dessein, et je le dis, parce qu'il y a aujourd'hui dans ce pays une offensive raciste, réactionnaire, qui est menée par un certain nombre de grands médias comme CNews avec M. Zemmour qui a libre antenne pour faire des meetings comme il veut tous les soirs, qui est menée par l'extrême droite, qui est même menée par le gouvernement, puisque vous avez M. Darmanin qui nous a expliqué il y a quelques semaines que Mme Le Pen était trop molle et qu'il était encore plus dur, voilà, ou M. Collomb qui a fait la loi asile et immigration qui est la plus brutale et la plus répressive depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'organisations experte sur le sujet. Donc on voit bien là aussi qu'il y a une forme de volonté de traîner le débat démocratique dans la boue et d'agiter les peurs. Or aujourd'hui, l'immigration, ni factuellement ni dans la réalité, elle n'est une menace ni pour la République française, ni pour le mode de vie que nous avons dans ce pays. Au contraire.
Il ne faut pas nier les 230 morts qu'on a eu sur notre territoire et qui expliquent aussi beaucoup plus que le jeu de l'extrême droite la réalité de la montée des peurs en France, les attentats, le séparatisme, mais
madame,
tout
quel
cela.
Quel rapport avec l'immigration? Vous ne pouvez pas dire ça, madame. Oui,
il y a
aujourd'hui moins d'étrangers.
Il n'y a pas forcément un rapport avec l'immigration. Ce que je veux dire, c'est que l'acceptation et la peur dans une société, vous mélangez tout. Vous expliquez que la peur est née de l'extrême droite. Moi, je vous rappelle des faits et des réalités
pour le coup, effectivement, je ne fais pas tout en accord avec ce que dit Céline Pina là-dessus. Effectivement, je pense que même si c'est peut-être une ambiguïté, mais le fait de mettre en lien, en tout cas sur le même débat, puisque là on parle de ça actuellement, la question de mort due à des actes terroristes et la question de l'immigration,
la montée de la peur la réalité de la mort, surtout pas faire ça
parce que pour le coup je pense que ça pollue complètement le débat. Non, c'est pas vraiment le réel parce que c'est pas le sujet. Si demain
Philippe,
c'est pas parce qu'il y a des personnes qui peuvent être d'origine immigrée qui peuvent avoir des actes de ce type qu'il faut associer les deux. Il peut y avoir une corrélation et pas une causalité.
On parlait de la peur qui montait là. On n'était plus sur l'immigration, on était sur la peur. Ouais.
Philippe Bilger.
Benjamin, si vous le permettez, d'abord, comme vous avez attaqué CNews, je me permets de dire que c'est faux ce que vous dites. Ça n'est pas une chaîne d'extrême droite. Deuxième point, là où je ne veux pas faire une synthèse qui serait absurde, mais je ne crois pas que l'angoisse que ressentent beaucoup de Français elle n'est pas chiffrée, entendons-nous. Est-ce que vous accepteriez au moins, Benjamin Lucas, qu'il y a une majorité de citoyens qui parfois peuvent ne pas se sentir chez eux? Alors je ne dis pas que cette peur est légitime, rationnelle, je dis qu'elle existe et que ça peut expliquer certains développements.
Benjamin Lucas.
Je suis d'accord que cette peur existe de façon irrationnelle, vous avez raison, et c'est pour ça que je m'engage politiquement, c'est aussi pour contribuer à la faire régresser dans les esprits par la conviction et pas par l'injonction. Je veux juste dire une chose quand même, moi je suis très choqué par l'exemple que vous prenez, Madame Pina, de rapprocher la question des attentats de la question de l'immigration. Je veux par exemple...
Je rapproche la question des attentats de la question que vous posiez, vous, de la peur qui monte dans la société. Je vous réponds, la peur qui monte dans la société n'est pas due à l'extrême droite, elle est due à la réalité de violences immenses commises sur notre territoire.
Oui, mais qui ne sont pas violences immenses commises du seul fait d'étrangers, d'immigrés, et qui n'ont pas de lien avec l'immigration. J'en veux pour preuve qu'il y a aujourd'hui, dans les prisons françaises, moins d'étrangers qu'il y a 20 ou 30 ans. Ce qui prouve là aussi que le discours sur l'idée de la montée, de la violence, de ce que Marine Le Pen appelle l'ensauvagement de la société, est en réalité quelque chose de fabriqué. Alors effectivement, la peur, elle se diffuse plus vite.
Au nom d'une idéologie étrangère.
La peur se diffuse plus vite. Vous savez, madame, des intégristes et de la haine, il y en a dans toutes les nationalités, dans toutes les religions, dans tous les pays.
Ah bon, monsieur de Villiers est un bon exemple. Monsieur de Villiers, quelle autre religion a tué 230 personnes sur notre sol?
On arrive au bout du...
Non, mais je voudrais bien savoir qui a tué autant de gens sur notre sol. Il y a des terroristes islamistes,
il y a des terroristes suprémacistes blancs animés par d'autres fois et d'autres opinions religieuses. Allez voir aux États-Unis ce qui se passe.
Mais madame, ce n'est pas... Un coup, on est en France, un coup, on est aux États-Unis, il faut savoir,
Céline
Pina,
on arrive à la feuille. Le mot de la fin en 30 secondes, Benjamin Lucas.
Oui, non, je voulais juste dire il y a effectivement peut-être un élément d'analyse qui nous mettra d'accord. Si la peur se diffuse plus vite, c'est aussi parce qu'on relaie beaucoup plus avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information continue, on relaie beaucoup plus un certain nombre de faits divers, souvent instrumentalisés d'ailleurs par l'extrême droite qui agit comme un vautour qu'on ne le faisait avant. Et donc, ça nourrit ce fameux sentiment d'insécurité, ce sentiment de peur. Et je crois que la voix des responsables politiques, la voix de tous ceux qui sont attachés à la démocratie, c'est de remettre dans ces débats-là de la raison et de l'intelligence collective pour combattre les peurs et poser les débats rationnellement.
Merci Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Verdict sur Twitter. La France face à un problème d'invasion et de colonisation. Êtes-vous d'accord avec Philippe de Villiers? Vous êtes 88% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants avec Jacques Pessis pour parler de la disparition du duc d'Édimbourg. Restez bien avec nous, Les Vraies Voix.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Et oui, on va parler de la disparition du duc d'Édimbourg à 2 mois de fêter ses 100 ans. On est en compagnie de la mémoire de Sud Radio. Bonsoir Jacques Pessis.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Le prince Philippe, bonsoir, au départ, Jacques, c'est un soldat.
Oui, c'est sa vocation, puisqu'au lendemain de ses 18 ans, il s'engage à la Royal Navy. Il rêve de voyages lointains. Et ce qu'il forme assure qu'il sera un extraordinaire officier. Et il va le démontrer pendant la guerre, où il mène des combats en Méditerranée, dans le Pacifique. Il devient lieutenant. Et ses galons de capitaine ne sont pas loin, Philippe.
Sa rencontre avec la future reine Elisabeth change tout.
Oui, alors elle a eu lieu en deux temps. En 1939, d'abord, il y a un dîner à l'école navale royale de Dartmouth, où il est formé. Et il y a une jeune fille de 13 ans qui le regarde, folle amoureuse. C'est la princesse Elisabeth. Mais elle n'a que 13 ans. Mais elle se jure que si un jour elle le retrouve, elle ne laissera pas partir. Et puis, 6 ans plus tard, au château de Balmoral, où elle a passé la guerre, il vient dîner. Et là, c'est le coup de foudre réciproque. Elle a 19 ans et elle se fiance avec lui le 18 juillet 47. Et le 20 novembre, elle l'épouse à l'abbaye de Westminster. Et ils deviennent le duc et la duchesse d'Édimbourg, puisque leur père est toujours vivant. Et le 6 février 52, quand elle est couronnée reine, elle le fait immédiatement prince du Royaume-Uni et duc d'Édimbourg.
Il devient donc le prince consort.
Même oui, un prince consort, mais qu'on sort pas assez à son goût, puisqu'il va vivre dans l'ombre de la reine pendant toute sa vie. Protocole oblige, il marche derrière elle, ça lui fait pas toujours plaisir. Il ne s'exprime jamais quand elle prend la parole, mais en revanche, je sais que dans les coulisses de Buckingham, il travaille beaucoup. D'abord, c'est lui qui a voulu que le prince Charles reçoive une éducation rigoureuse si un jour il était roi, ce qui n'est pas sûr aujourd'hui. Et puis, quand il y a eu le divorce de Charles et Diana, il a vraiment agi en diplomate pour que tout se passe le moins mal possible.
Les photos que l'on voit de lui donnent l'image d'un homme grave, Jacques.
Oui, alors qu'il était exactement le contraire. Il avait un sens de l'humour dévastateur. C'est-à-dire que certaines piques qu'il a lancées dans des réunions officielles, je crois qu'aujourd'hui, ça lui vaudrait mais des trombeaux de haine et de, sur les réseaux sociaux. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Et puis, en 66, et les images existent, à l'occasion d'une visite officielle à Paris, il s'exprime dans un français parfait, dans un dîner. Et là, il fait un véritable stand-up avant la lettre. Il parle ainsi de son peuple, les Anglais. Il dit « Les Anglais disent des Français qu'ils ont des visages qui ressemblent à des grenouilles. Je m'abstiendrai de dire aux Anglais comment les Français les surnomment. » Et ça fait éclater de rire la salle, bien entendu.
Évidemment. À cette occasion, il a d'ailleurs accordé une interview exclusive à un certain Léon Zitrone.
Oh là là, c'est la seule fois où il a parlé, et les images existent encore, et c'est la seule de sa très longue vie. Devant Zitrone, qui était obséquieux, comme l'imaginez, mesdames et messieurs, bonsoir, monseigneur, bonsoir, le prince Philippe s'est interrogé en particulier sur l'entrée de son pays dans le marché commun. On est en 66, et il a confié à demi-mot qu'il imaginait mal l'Angleterre se prêter à ce jeu, et si c'était le cas, si l'Angleterre entrait dans le marché commun, eh bien ça ne durerait absolument pas. Et 50 ans plus tard, le Brexit lui a donné raison.
Philippe Bilger, c'était un visionnaire avec l'affaire du Brexit, le duc d'Édimbourg.
Absolument. En dehors de du savoir de Jacques Pessis, on le disait tout à l'heure, moi j'ai beaucoup apprécié The Crown et j'ai demandé à Jean Descartes, qui connaît bien tout ça, il m'avait dit que c'était très proche de la vérité historique. Et le Philippe dans The Crown est tout à fait passionnant, complexe, on comprend ses révoltes et puis il s'est peu à peu assagi. J'aime beaucoup cette personnalité.
Vous êtes d'accord avec ça, Jacques? En 30 secondes, Philippe, quel beau prénom.
Oui. Et non seulement The Crown est proche de la réalité, mais le palais de Buckingham a très mal pris la dernière série en disant que c'était absolument pas la vérité, alors qu'effectivement c'est très proche de la vérité. Le prince Philippe, il n'a jamais apprécié d'être le second, et je crois qu'il en a profité pour s'amuser un peu. Voilà.
Merci beaucoup Jacques Pessis pour cette biographie du duc d'Édimbourg, et on vous retrouve bien évidemment avec grand plaisir tous les jours dans Les Clés d'une Vie avec vos nombreux invités. Vous êtes bien sûr Sud Radio, Les Vraies Voix, 18h54, on se retrouve dans quelques instants.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine du côté de Villerupt, ville de Meurthe-et-Moselle dotée de 10 000 habitants.
Oui Thomas, nous recevons Aurore Zedira, responsable de l'agence Orpi Villerupt Immobilier à Villerupt.
Bonjour Aurore Zedira.
Alors, comment se porte le marché immobilier à Villerupt?
Écoutez, le marché se porte très très bien à Villerupt. Il faut savoir que Villerupt, c'est une petite ville qui est située à moins d'un kilomètre vol d'oiseau de la frontière luxembourgeoise. C'est un secteur particulier puisque l'attrait de la région est sûrement dû à l'attractivité des salaires luxembourgeois, bien plus élevés qu'en France. Et on observe ici une forte croissance démographique qui a pour conséquence un marché assez tendu, beaucoup de demandes pour peu d'offres. Et cette tension explique une montée des prix assez exceptionnelle depuis 2 ans.
Qui est-ce qui pousse la porte de votre agence en temps normal?
On a 2 types de clientèle. Une clientèle de primo-accédants, majoritairement des travailleurs frontaliers qui viennent se loger en France car l'accession à la propriété y est plus facile, 4 à 5 fois moins cher qu'au Luxembourg. Mais on a aussi également des investisseurs d'un peu partout en France qui s'intéressent de plus en plus à la région.
Quelle est la tendance sur les prix justement dans votre ville?
On est sur une ancienne ville ouvrière et minière avec un parc immobilier qui date en partie des années 40-60. Sur le parc ancien, on est plutôt entre 1500 et 2500 euros le mètre carré. Et on a également un parc plus récent composé de zones pavillonnaires et de logements neufs sur lesquels les prix vont monter entre 3000 et jusqu'à 4000 euros le mètre carré.
Avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville?
Oui, bien sûr, un conseil particulièrement pour les acquéreurs. Ici, nous remarquons que les conditions de notre prêt se resserrent. Donc, il faut impérativement travailler son financement en amont de son projet immobilier. Sur un marché tendu, il faut que l'acquéreur puisse prouver son sérieux et sa solvabilité pour être privilégié sur une concurrence d'offres. C'est ce qu'on fait chaque jour avec nos clients, donc il faut être bien accompagné.
Voilà. Merci Aurore Zedira d'être passée du côté d'Osez Investir et je rappelle que vous êtes la responsable de l'agence Orpi Villerupt Immobilier à Villerupt. Quant à vous Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio Osez Investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Merci à vous les vraies voix, merci Philippe Bilger, Céline Pina, Tom Conan. C'est maintenant votre tour Jean-Marie Bordry avec Pierre Chasseret pour les vraies voix qui font bouger la France. ça roule.
Ouais, toute l'actualité des automobilistes, du transport, les cyclistes aussi, hein, pourquoi pas, les deux roues, hein, tous ceux qui roulent, bref. En d'autres termes, jusqu'à 20h sur Sud Radio, on va vous parler de l'éthylotest obligatoire. Vous vous souvenez de ce petit serpent de mer? Il est peut-être en train de faire son retour. On va vous parler du GPL, vous vous rappelez le GPL?
Bien sûr, le gaz de pétrole liquéfié.
Exactement, tiens, est-ce que ça existe encore?
Bien sûr.
Il est doué.
Le gaz de pétrole liquéfié. Et puis on parlera de ces dodanes, hein. Ça vous arrive souvent peut-être, vous aussi Philippe, de prendre la voiture, de traverser une ville et d'avoir un trop gros dodane qui n'est pas aux normes. Un député se rebiffe contre ce phénomène, on en parlera avec lui à 19h45.
Et on reste bien avec vous Jean-Marie Bordry et Pierre Chasseret.